Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
En 2010, le journal Télérama titre « Halte à la France moche », en photo de une zone commerciale avec des voitures et des logos publicitaires. En dehors des villes, sans être vraiment en zone rurale, ces urbanités différentes restent toujours, 15 ans plus tard, très mal perçues. L'article parlait alors de métastases périurbaines. Aujourd'hui, peut-on toujours parler vraiment de cancer? Ces zones d'activité, ces gares de TER, ces pistes cyclables, ces entres de villes, qu'est-ce que c'est finalement? Opération dépoussiérage de clichés, on prend le temps cette fois-ci de s'arrêter dans les zones du périmétropolitain. Pour ce plongeon dans la France moche, le Labo des Savoirs s'est entouré de plusieurs profils très différents et complémentaires, car cette émission va tourner autour de l'urbanité et du futur de nos territoires, et le programme est chargé. Alors avant de présenter nos invités, parlons un petit peu du projet qui les unit. POPSU, c'est une abréviation qui risque d'être beaucoup utilisée dans cette émission, alors autant définir ce que c'est. POPSU, c'est la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaine, c'est-à-dire un endroit où les scientifiques et les techniciens, techniciennes de l'urbanisme ainsi que les décideurs politiques se retrouvent pour échanger sur des actions concrètes et possibles sur l'avenir de nos villes et de nos territoires. Nous recevons donc en plateau trois représentants de ce projet interdisciplinaire POPSU. Côté recherche scientifique, je me tourne vers vous, Lucile Garnier. Vous êtes post-doctorante au laboratoire AAU pour ambiance, architecture et urbanité, de l'école d'architecture de Nantes. Bonjour.
Bonjour.
Vous représentez le côté recherche de ce projet. Vous faites également partie de l'équipe Créneau pour Centre de Recherche Nantais Architecture Urbanité. Et votre voisin de bureau n'est autre que Laurent Devime, coordinateur et responsable scientifique de POPSU Nantes. Il est également vice-président aux transformations écologiques et médiations scientifiques de Nantes Université. Il interviendra en différé et à distance à travers deux petites pastilles sonores. Côté technique et politique, nous recevons tout d'abord Lucie Renoux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée d'études à l'agence d'urbanisme de la région nantaise, donc c'est vraiment la casquette technique de ce projet, on peut dire ça, casquette technique?
Oui, on peut.
Tristan Riom, vice-président de la transition écologique de la métropole de Nantes, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes seul en plateau, mais vous représentez en réalité un groupe de trois élus de cette métropole de Nantes, on les salue. Pascal Prat pour le côté urbanisme, Azilis Gouez pour le côté enseignement supérieur et recherche, et donc la transition écologique avec vous. Le tour de table est fait et on voit déjà une variété de profils et de métiers. C'est bien l'originalité de ce programme POPSU. Alors, pour comprendre de quoi on parle, place à l'interview.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
Alors, pour commencer avec un premier tour de table, je m'adresse à vous trois avec une question simple, enfin pas si simple. C'est quoi votre rôle dans ce projet POPSU? Et on va commencer, Labo des Savoirs oblige, par la recherche. Lucile Garnier, quel est votre rôle?
Alors, mon rôle dans ce programme de recherche, c'est un rôle de co-coordination, aux côtés de Laurent Devime donc, et avec tous mes collègues, on est une petite dizaine de chercheurs dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de la géographie.
Alors je me tourne vers votre voisine, Lucie, quel est votre rôle à vous?
Moi, pour représenter l'agence d'urbanisme, en fait, c'est vrai que le programme POPSU est souvent un programme de recherche-action, et donc il y a un mélange entre des chercheurs et des acteurs du territoire, et on peut dire que l'agence d'urbanisme représente les acteurs du territoire, mais on a aussi nos homologues de la métropole qui sont présents, pas là sur le plateau, mais dans le projet.
Tristan Riom, vous êtes un élu, alors qu'est-ce qu'un élu vient faire ici?
Donc le principe du programme POPSU, c'est de faire le lien entre des chercheurs et des chercheuses du territoire
et des gens qui participent à décider les grandes orientations stratégiques en termes d'urbanisme, d'aménagement, etc. Et donc notre rôle d'élu, ça a été, dans les phases de préparation notamment, de partager tous les sujets qui en ce moment font débat, sur lesquels on a besoin d'éclairage. Et donc, quand on est décideur local, on a besoin aussi de recherche, de science pour nous orienter sur un certain nombre de sujets. Donc on a posé plein de questions sur lesquelles on a besoin d'éclairage. Et après, les chercheurs et chercheuses, si ce les sont appropriés. Ce partenariat direct, il est intéressant parce qu'on vient vraiment traiter une question qui est au cœur de nos préoccupations, comme là la question du périmétropolitain.
Vous avez dit le mot périmétropolitain, c'est un mot qui revient souvent, alors on va voir tout au long de cette émission que ce n'est pas si facile à définir que ça, mais déjà, pourquoi est-ce que faire de la recherche et des actions publiques en dehors de la métropole, c'est intéressant, pourquoi aller vers ce qu'on disait en début d'émission, cette France moche, et je reprends ici les termes de Télérama.
Je peux commencer à esquisser une réponse. Nous, ce qui nous intéressait, et je pense qu'il intéressait aussi la métropole dans cette coécriture qui a été le début de cette plateforme, c'était de s'intéresser à ce qui se passe au-delà de la métropole politique, de la métropole institutionnelle, parce que la métropole vécue, elle déborde ses frontières administratives, et on a beaucoup de métropolitains, métropolitaines qui en fait vivent dans des communes, dans des intercommunalités qui sont au-delà de ce secteur-là. Ces territoires, ils ont longtemps été élus comme des paysages de la France moche, comme vous l'avez dit. Et l'hypothèse qu'on fait, c'est que c'est pas si simple. Et d'autres chercheurs l'ont fait avant nous, mais c'est aussi des territoires qui peuvent être mettre à l'épreuve des innovations. Enfin, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas des transitions intéressantes ou en tout cas qui sont en train de se transformer.
Lucie Reynaud, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus ou est-ce que c'est un peu une question piège pourquoi aller vers l'extérieur de la métropole? Pourquoi aller dans ces zones qu'on n'a pas forcément l'habitude d'observer?
Alors, c'est pas une question piège. Nous, on travaille beaucoup sur les territoires périurbains et périmétropolitains au sein de l'agence d'urbanisme. Mais pour rebondir sur les propos de Lucille, je dirais que souvent on parle plus de la métropole parce que depuis qu'elles se sont développées, depuis le développement des métropoles d'équilibre, etc., elles sont mises en lumière, en lien aussi avec un peu les paradigmes d'attractivité, de compétitivité, etc. Et finalement, ce qui se passe autour, c'est un peu invisibilisé. Et c'est... Je pense ce qui nous intéresse et ce qui fait point commun entre nous tous dans ce programme POPSU, c'est de peut-être les mettre en visibilité et de mettre en visibilité tout ce qui se fait dans ces territoires et qui est loin d'être la France moche. Je pense qu'on est tous un peu d'accord là-dessus.
Rendre visible, et puis vous avez dit un mot intéressant, le mot attractivité, l'attractivité de la métropole, on le voit partout, c'est un mot qu'on utilise souvent. Tristan Rium, quand on a préparé cette intervention, cette émission, vous m'avez parlé de ce mot attractivité qui en fait est peut-être pas si facile que ça, peut-être qu'il est remis en question en ce moment.
Oui, le concept d'attractivité des métropoles est très remis en question. Alors, ça a été dit par Lucie Renoux. En fait, à l'origine, les métropoles, c'est conçu vraiment comme un outil pour un peu contrebalancer le poids de Paris, en gros. Et donc, les métropoles, c'est d'autres centres urbains qui vont devenir attractifs, etc. Mais ce qui s'est passé depuis 20-30 ans, c'est que du coup, on a ces gros centres urbains très attractifs qui vont avoir tendance à vider un peu les territoires alentours. Alors, à l'échelle française, par exemple, on projette que la Loire-Atlantique va gagner 25% de population d'ici 2050, alors que 2/3 des départements de France vont perdre des habitants. Donc on voit que déjà, il y a quelques territoires qui ont une forte attractivité, et c'est souvent des territoires qui ont une métropole connue et qui attirent plein d'habitants. Donc il y a vraiment cette question-là pour nous, et dans les années qui viennent de passer, on voit qu'en fait, pour les grandes métropoles comme nous, le terme attractivité, il commence à être de plus en plus rejeté. Et d'ailleurs, pour un peu tous les bords politiques, c'est intéressant de voir que c'est pas qu'une question droite, gauche, écologiste. Enfin, c'est un sujet qui est vraiment remis en question pour les territoires comme les nôtres. Il y a d'autres territoires qui perdent des habitants et qui, eux, vont mettre de la puissance publique pour être attractifs. Mais pour nous, c'est plus forcément le cas. On peut dire que c'est notamment dû au fait que on a du mal à loger tout le monde. Donc c'est un vrai sujet, la crise du logement. Et que la conception du territoire où en fait il y a un centre-ville où il se passe plein de trucs et tous les autres se définissent en fonction de à combien de kilomètres j'habite du centre-ville, ça c'est une définition qui est quand même très triste d'un territoire, et donc on a envie de penser le territoire autrement.
C'est presque comme un retour de bâton de ce concept d'attractivité de la métropole ici de Nantes, où en fait, bah maintenant, on ne peut pas loger tout le monde, on ne peut pas faire en sorte que tout le monde soit dans la métropole de Nantes, donc peut-être repenser ces espaces qui sont entre la grosse métropole de Nantes et puis l'image un peu bucolique qu'on a des villages alentours avec la petite église. En fait, il y a tous ces espaces entre qui sont nouveaux à découvrir et qu'il faut remettre en valeur, si je résume un peu.
Oui, complètement, puisque je trouve intéressant avec la démarche que vous avez faite dans le cadre de cette recherche avec Popsu, c'est qu'en fait, c'est pas du tout vrai le récit qu'il y aurait une ville-centre et puis le reste qui est un peu vide. Il se passe plein de choses dans plein d'endroits, il y a plein d'espaces de vie différents. Donc c'est intéressant d'essayer d'y mettre des mots et de voir qu'on peut concevoir un territoire autrement qu'un centre et une distance par rapport à ce centre. Un autre élément, c'est que depuis quelques années, nous, on a mis en avant ce qu'on appelle l'alliance des territoires. C'est donc l'idée, et d'ailleurs ma collègue Azilis Gouez, elle est élue à ça, c'est l'idée de dire qu'il faut que la métropole ait des relations qui soient saines et équitables avec les territoires alentours. On est tous sur un pied d'égalité, on est tous codépendants les uns des autres, et il n'y en a pas qui sont au-dessus des autres. Donc on essaie vraiment de repenser ces relations-là.
C'est avec les maires des territoires, avec des chefs d'entreprise, comment ça se passe concrètement cette alliance des territoires ?
Bah, ça va être chercher à créer des contractualisations, par exemple, où oui, ça va être beaucoup entre élus, mais aussi sur des questions d'entreprise. Par exemple, quand on dit qu'on cherche plus à être attractif à l'échelle de la métropole, bah, peut-être que si une entreprise veut s'installer sur le territoire de Loire-Atlantique, au lieu d'être en concurrence les uns entre les autres, à dire moi j'ai envie que ce soit à Saint-Nazaire, moi j'ai envie que ce soit à Saint-Étienne-de-Montluc, bah, on s'organise pour qu'ils s'implantent dans l'endroit qui est le plus intelligent. Bon, bah, c'est un peu ce genre de changement de manière de penser qui paraît logique, mais qui est assez nouveau en fait.
Alors le programme POPSU, hein, je le rappelle, plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines, se décline en trois axes, les métropoles, on en a parlé, les territoires et les transitions. Et à Nantes et dans sa région, nous sommes plutôt sur le dernier axe avec une exploration de ces transitions qui ont lieu un peu autour de nous et qui génèrent parfois des controverses, des frottements au sein des territoires. En quoi ces espaces d'entre-deux peuvent être des lieux de controverses ou de transitions ? Peut-être Lucille ?
C'est vrai que nous, on regarde... Ce qui nous intéresse dans ce programme POPSU, c'est de regarder un peu des formes de métropolisation qui sont moins évidentes que celles que les figures spatiales qu'on peut retrouver dans les villes-centres. Mais que ce processus de métropolisation, il est lisible aussi par des formes un peu déconcentrées. Donc dans ces territoires-là, ça peut prendre plusieurs fonctions, notamment des fonctions un peu logistiques ou économiques qui sont de plus en plus exportées dans des territoires aux alentours de ces grands centres urbains, et c'est pour l'instant ce qu'on a qualifié comme ce qui pose problème, ce qui génère des tensions, des controverses, c'est la planification de zones d'activité ou de zones commerciales, voilà, qui pose question dans ces grands territoires. On a toujours des manières d'aménager par zone.
Qu'est-ce qu'on appelle exactement par zone d'activité ? Parce que j'ai une image qui se forme dans ma tête de routes et de bâtiments un peu moches et souvent avec des grands portails où on ne peut pas forcément aller sauf si on a une carte professionnelle. Ou voilà. C'est ça une zone d'activité ? C'est quoi, comment on le définit exactement ?
Alors effectivement, ça, je pense que ça correspond un peu à l'image que tout le monde a de la zone d'activité ou de la zone commerciale. Après, je dirais que le zonage, c'est aussi une technique d'aménagement qui a prévalu pendant très longtemps, où on a souvent une ZAC, une zone d'aménagement concertée, qui est planifiée vraiment sur un plan. C'est un ensemble de parcelles qu'on va aménager voilà, dans l'objectif soit d'y implanter des entreprises pour une zone d'activité, des commerces pour une zone commerciale, etc. C'est une procédure d'aménagement.
Et puis ce qu'on peut dire, c'est que c'est souvent aussi une manière de penser où on va dédier des zones à des usages très précis. Donc la zone de commercial, on y va pour acheter des trucs. La zone d'activité, on y va pour travailler. Et ensuite, on va habiter dans une commune, enfin dans le village ou autre, pour avoir du logement. Et le problème, c'est que cette manière d'aménager, ça marche si on a une voiture pour circuler et du coup consommer beaucoup d'énergie. Donc tout le travail qu'on cherche à faire pour changer de mobilité, il est important, mais il demande aussi de changer cette manière d'aménager où on dédie des zones très précises pour des usages très précis.
Oui, j'imagine que si on travaille dans une zone pavillonnaire et qu'on vit dans une zone pavillonnaire, puis ensuite qu'on va travailler en journée dans une zone d'activité et qu'enfin on récupère ses enfants dans une troisième zone, ça fait de la voiture et ça fait des transports et ça fait du temps de trajet. Lucille, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, je voulais dire que à la fois ces secteurs-là, ils posent problème pour en termes environnemental ou autre, mais que dans le projet de recherche, nous, on prend aussi au sérieux ces choses-là comme des nouvelles centralités. Donc, c'est à la fois des choses qui sont là, qui continuent d'être projetées, mais dans lesquelles les gens vivent, travaillent. et qui sont aussi traversées par des transitions ou par des pratiques qui résistent à, ben, voilà, la pratique de la voiture, ça subsiste, mais il y a aussi des gens qui essayent de développer la pratique du vélo ou du covoiturage dans ces zones-là, de les diversifier, de, voilà, donc c'est aussi ce qu'on regarde.
Oui, ce n'est pas que des zones un peu tristes ou négatives. Il y a tout un système qui se met en place de sociabilisation, d'ailleurs. On va le voir en deuxième partie, d'urbanité un peu différente. Et je reviens un peu sur ce côté controverse avec un exemple de l'actualité qui commence à dater un petit peu. Mais on se souvient des gilets jaunes qui occupaient un petit peu les ronds-points en périphérie des grandes villes. Il y a aussi des enjeux écologiques autour de ces zones-là qui sont très bétonnées, avec le zéro artificialisation nette aussi qui peut poser problème. Est-ce que ces zones d'entre-deux sont l'étendard de plein de problématiques un peu de transition actuelle? Est-ce que ça représente plein de choses où on ne sait pas trop les mettre ni dans les villes ni dans les campagnes et ça se retrouve là?
Le fait que, en tout cas, les zones d'activité, pour nous, métropole, c'est une vraie question, parce que ça a été dit, il y a des gens qui passent presque toute leur vie, en fait, dans ces zones, à travailler 8 à 10 heures par jour pendant 30 ans. Donc, en fait, on passe beaucoup de temps dans des zones qui sont parfois pas aménagées de manière très, très jolie. Enfin, et donc, quand on parle, par exemple, végétalisation de la ville, souvent, on va pas s'intéresser à ces zones-là, alors qu'il y a des vrais enjeux aussi urbanistiques, etc. Donc, nous, aujourd'hui, typiquement, c'est plutôt une question à savoir: qu'est-ce qu'on fait de ce sujet? Comment on le traite? Et on a quelques pistes, mais on est vraiment à l'étape de réflexion. Donc, dans les années à venir, on sait qu'on va devoir intervenir là-dessus. Et c'est là où, du coup, le fait d'avoir des chercheurs et des chercheuses qui disent « Bon, bah, nous, on va aller sur le terrain pour poser un diagnostic », ça nous permet, nous, du coup, de ensuite envisager des actions côté politique.
Le terrain, on va d'ailleurs en parler en deuxième partie. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus ou on enchaîne?
Peut-être rebondir juste sur mais ce qui a déjà été souligné, c'est que finalement, ces zones... aussi différentes soient-elles, finalement, elles incitent à prendre la voiture. Et ça, on sait que c'est pas soutenable à long terme, finalement, d'avoir autant de déplacements motorisés. Mais c'est un peu l'enjeu. Enfin, nous, je dirais une question, en tout cas, qu'on se pose en allant enquêter dans le périurbain, de savoir ce sur quoi on peut s'appuyer pour les renouveler de manière plus soutenable.
Les renouveler, les repenser. Et pour ça, il faut s'y rendre, il faut savoir les observer. C'est ce dont on va discuter en deuxième partie d'émission. Restez avec nous.
Thank you.
son des sciences. Au Labo des Savoirs.
C'était Paper Trail de Darkside. Nous sommes de retour en plateau avec trois représentants du projet POPSU, plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines. Lucille Garnier, chercheuse au laboratoire Ambiance, Architecture et Urbanité. Tristan Riom, vice-président à la transition écologique de la métropole de Nantes. Et Lucie Renou, de l'agence d'urbanisme de Nantes. Alors dans cette deuxième partie d'émission, on va se concentrer sur la méthode POPSU, faire du terrain. Et pourquoi c'est si important et en quoi ça fait partie de la génétique du projet. Élément de réponse avec Laurent Devim, coordinateur et responsable scientifique de Nantes Université.
Bon, il nous semble que faire du terrain, c'est la clé d'une recherche comme celle de POPSU et plus largement de celle qu'on mène en sciences sociales, lestée d'un bagage qui est l'architecture, l'urbanisme et le paysage. On aime souvent dire à nos étudiants aussi, allez voir, allons voir, sans trop poser d'hypothèses au départ. On fait confiance à nos intuitions. Il nous semble qu'on va découvrir probablement des choses là où on ne les attendait pas. Et puis, on est attentif à la manière dont on va être présent sur le terrain, comme les ethnographes le sont. Comment on se rend sur le terrain, comment on s'y déplace, comment on est possiblement perçu. Toutes ces questions sont évidemment importantes pour toute personne qui se forme aux sciences sociales. Et puis, il y a peut-être deux autres raisons que je trouve utiles, c'est que on va parler de zones d'activité qui n'ont rien d'exceptionnel, qui sont plutôt ordinaires. Et c'est compliqué de décrire l'ordinaire, en fait. Soit parce que c'est celui qu'on connaît, c'est celui qui nous est familier. Et ce qui est familier n'est pas pour autant connu. Donc on sait bien tous les jours qu'on fait des trajets sans être très attentif à ce qui émerge, ce qui est là, ce qui est tout contre et qu'on ne voit pas. L'autre risque, c'est celui d'exotiser tout ça. C'est-à-dire qu'on serait tellement loin, on serait tellement éloigné des pratiques commerciales en l'occurrence ou autres, qu'on regarderait tout ça comme comment peut-on être persan. Autre problème quoi. Comment on se situe entre les deux ? D'une part, ne pas redouter d'y aller franchement, et y compris la première fois, en mode on ne sait pas bien ce qu'on va observer, mais on va être attentif à qu'est-ce que les signes nous disent dans l'espace public. Un panneau publicitaire, l'annonce d'un permis de construire, des empêchements de passer, ou des blocs qui ont été mis pour empêcher que des gens du voyage s'installent. Ou tout ça, c'est des objets qui sont pas des monuments. Et pour autant, qui nous renseignent sur comment on franchit des obstacles. Est-ce que c'est facile de rentrer? Est-ce que ça n'est pas facile d'entrer? C'est peut-être plus divers qu'on imaginait. C'est peut-être plus dense qu'on imaginait. Et alors, il se trouve que la zone d'activité Dragon, pour nous, à un moment, se présente comme quelque chose de, comme un lieu énigme. Et l'énigme première, c'est sûrement celle qui nous fait repérer la fermeture d'un décathlon, et donc le fait que ce décathlon, pourtant récent, est déjà une friche. Donc on a envie d'aller y voir, et on s'y rend en collectif d'abord, à quelques-uns de l'équipe de recherche, c'est à l'été 2024, et on se dit, tiens, oui, en effet, c'est une friche, il y a des barrières partout, quelque chose d'autre va probablement advenir, mais rien n'est clair. Et puis juste à côté, on voit autre chose. C'est une salle de sport, c'est un restaurant. Visiblement, il ne se passe pas que des courses et du drive-in. Et donc, c'est vrai que là, l'intérêt, c'est sûrement de descendre de sa voiture, de descendre de son vélo et de prendre le temps d'arpenter. Alors, la notion d'arpentage, elle est assez centrale. Elle fait qu'on devient piéton de zones qui ne sont généralement pas faites pour ça et qui nous permettent d'être plus attentifs à des incongruités parfois.
Alors on l'a entendu à l'instant, c'est compliqué de décrire l'ordinaire, c'est pourtant la charge donc du programme POPSU, et vous ne le faites pas n'importe comment, vous suivez ce qu'on appelle des transects. Donc un transect en géographie, c'est une traversée d'un territoire selon une ligne définie pour en décrire toutes les composantes, aussi ordinaires soient-elles. Avec ce programme de recherche, vous arpentez trois transectes. Le premier vers le nord, qui suit le chemin de Nantes, Treillières, Fay de Bretagne, Vigneux de Bretagne, où se situe la fameuse zone de Ragon dont on parlait à l'instant avec Laurent Devim. Le deuxième transect vers le sud-est, qui suit Nantes, Saint-Julien-de-Concelles, Le Louroux-Botereau, Valais et Clisson, où il y a notamment le festival du Hellfest, pour finir à Montbert. J'espère que je n'égorge aucun nom. Et enfin, le troisième transect vers le sud-ouest qui suit les gares de TER de Nantes, Rezé, Bouet, Port-Saint-Père, Saint-Marc et Sainte-Pazanne. Et pour ceux qui vont à la plage en Vendée comme moi, vous aurez reconnu sûrement les arrêts de train. Alors concrètement, comment on fait pour arpenter ces transects, notamment dans un cadre de recherche scientifique? On le rappelle, est-ce qu'on bloque une journée, on prend un appareil photo, un vélo, on y va? Est-ce qu'on réserve des trains? Est-ce qu'on y va à 10, à 30, à 0? Racontez-moi tout, qui commence?
Je peux commencer pour l'agence d'urbanisme, puisqu'on a réalisé une représentation sensible et visuelle d'un transect qui va de Nantes à Sainte-Pazanne, donc le troisième dont vous avez parlé. Où on l'a considéré ce transect, alors oui tout à fait, c'est une ligne géographique qui va d'un point A à un point B, et on a choisi cette approche par transect parce qu'on peut pas saisir toute la diversité et la complexité du périurbain comme ça, il fallait bien suivre un chemin, donc on a choisi ce chemin et on l'a considéré comme une coupe représentative de l'urbain au périurbain, donc entre Nantes et Sainte-Pazanne. Et donc comment on l'a arpenté ce transect? Effectivement, c'est aussi simple que ça. Pour l'instant, on y allait de manière très intuitive, à vélo, à trois, à plusieurs reprises, donc plusieurs fois, avec un carnet de notes et un appareil photo. C'est ce qu'on appelle faire de l'urbanisme descriptif, c'est un terme qui est cher aussi à Laurent Devim qu'on vient d'entendre dans la pastille, où on a exploré finalement avec un regard un peu neuf, un peu naïf, en étant attentif aux ambiances urbaines, on a exploré ce périurbain tout au long du transect. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un espace urbain à un espace périurbain? Quelles sont les ruptures, les jonctions? Et qu'est-ce qu'un espace urbain ou périurbain si l'on prend en compte l'expérience sensible de l'usager? Donc l'expérience sensible, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on ressent finalement lorsqu'on traverse ce transect? Et alors pour le documenter, finalement, de retour au bureau, on a imprimé des grandes cartes, on l'a vraiment affiché dans nos bureaux, et on l'a rempli donc avec les différentes personnes qui étaient là pour arpenter le transect, des points d'intérêt, des pictos, des photos, des verbatims de notre ressenti. Chacun a mis un peu son compte-rendu sur un même document et c'est le mélange de ce qui est ressorti de la part de tout le monde finalement qui a produit une analyse. Alors, comment est-ce qu'on l'a analysé? Pour l'instant, il y a deux choses qui ressortent de cet arpentage du transect entre Nantes et Sainte-Pazanne. La première chose, c'est qu'il nous a semblé nécessaire pour en parler finalement d'identifier des séquences. Donc la première chose sur laquelle on s'est mis d'accord entre nous, c'était identifier des séquences. Et donc qui dit séquence veut dire rupture, parce qu'une séquence commence et termine. Et donc du coup, on a pu identifier comme ça une dizaine de séquences sur le transect. Alors je vais pas toutes les nommer parce que ce serait assez long, mais finalement qui va du très urbain, où il y a beaucoup d'animation, beaucoup de circulation, des cafés, des restaurants, etc. Où on passe à une zone beaucoup plus calme, plus résidentielle, avec des maisons, plutôt une zone pavillonnaire. Et je l'ai dit, ça va être dans un ordre ou ça pourrait être dans le désordre. En fait, c'est pas linéaire. C'est beaucoup d'oscillations entre différentes ambiances urbaines. On a aussi des ambiances où on va se retrouver sur des chemins ruraux où on roule sur des cailloux, des ambiances où on passe à côté des zones d'activité où on est frôlé par des camions et où le bruit est oppressant, et l'ambiance aussi en tant que cycliste. Voilà, donc il y a une succession d'ambiances comme ça.
Des petits tronçons des tronçons des pièces de puzzle.
Exactement.
Qui forment tout ce transect, mais qui en fait individuellement sont très différents, c'est ça?
Tout à fait.
Donc vous les avez identifiés, vous les avez documentés?
C'est ça. Au départ, grâce à nos carnets de notes et nos ressentis à l'issue de cet arpentage terrain. Et ensuite, on peut consolider aussi avec les photos qu'on a prises exactement, et effectivement, sur le terrain, en plus, et qu'on peut ensuite documenter un peu plus via les données qu'on a, par exemple, à l'agence d'urbanisme, si on voulait analyser un peu plus profondément nos intuitions. Puisqu'au départ, effectivement, ces séquences sont très intuitives. Et finalement, c'est aussi ce qui nous plaît dans ce transect, c'est que c'est aussi un mode de représentation visuelle. Et là où on imagine avoir un gradient peut-être de l'urbain vers le périurbain qui irait vers le rural de plus en plus rural, finalement c'est pas un dégradé qu'on obtient, c'est vraiment des oscillations, c'est pas du tout linéaire, et c'est ça qui nous intéresse aussi de creuser
Ça donne aussi un beau document où on voit donc la ligne du transect et on voit des espèces de photos qui sont empilées par colonnes pour décrire, j'imagine, ce que vous avez appelé les séquences. J'ai pu consulter le document, hein, c'est vraiment plein de photos plutôt petites qui s'empilent ça donne une petite ambiance. Rien qu'en voyant ce poster, on a l'impression un petit peu d'y être et on voit les chemins de campagne, on voit les routes, on voit plutôt du gravier, plutôt du béton, plutôt du verre, plutôt moins de verre, des bâtiments plus ou moins grands. Donc ça nous fait voyager aussi. Alors je me tourne vers vous, Lucille Garnier. Est-ce que vous aussi, vous avez pris votre appareil photo et votre vélo et vous avez essayé de sonder ces différentes séquences dans un transect ou vous avez fait une autre méthode ?
Ouais, alors bien sûr, je l'ai fait, notamment en compagnie de Lucie et de Laurent. Mais avec l'équipe, on a déployé aussi d'autres méthodes. On est très... Vigilante à faire de l'enquête collective et d'être ensemble et de notamment mettre en ce que Elisabeth Pasquier, qui était dans notre laboratoire de recherche, appelle des battues urbaines. On fait des sorties à plusieurs on a exploré, on a arpenté ces transects-là dans une première phase. Puis là, dans des recherches un peu plus précises, on a pu se rendre, on a appelé ça des 24 heures popu. On fait sur des temps bien définis, on arrive sur des terrains qu'on a envie d'explorer. Alors, sur les recherches qu'on mène plutôt sur ce qu'on a appelé les lieux mouvements, les mobilités. Voilà, il faut des fois être présente très tôt le matin ou plutôt sur des heures de fin de travail. Donc, on a pu se rendre à Sainte-Pazanne à 6h30, 7h du matin pour regarder ce qui se passait sur des parkings d'aires de covoiturage ou en gare de Sainte-Pazanne. Et c'est super de faire ça comme ça, bien sûr, avec notre appareil photo. Et puis, on croit aussi beaucoup au fait de s'appliquer à décrire. Ce que disait Laurent Devime tout à l'heure, pour échapper un peu à ce flou de l'ordinaire qui peut nous soit exotiser, soit faire en sorte qu'on ne voit plus rien, et en fait consigner par des écritures, des comptes rendus, des rapports d'étonnement, ce qu'on appelle. La manière dont on a vécu nos séquences de terrain, ça nous permet d'y revenir, de se les partager et de pointer ce qui en fait va continuer à être une énigme centrale de la recherche, qu'on consigne. Et puis une autre partie de la recherche, on travaille plutôt sur la question des controverses et des tensions d'aménagement. On a été à la rencontre d'acteurs citoyens mobilisés, de collectifs avec qui on a parcouru à pied, donc toujours à plusieurs, les zones contestées, pour parler plutôt de paysages et d'appréhension de l'environnement. Ouais.
Donc se rendre sur place, constater, observer, décrire, faire des rapports d'étonnement, j'adore ce terme, qui sont d'ailleurs disponibles sur internet, sur le blog Hypothèse, je crois, de Popsu, donc c'est lisible si vous êtes intéressé, auditeur, auditrice, mais également interagir avec les gens que vous rencontrez sur place, les acteurs, les actrices, les habitants. Alors je me tourne vers votre voisin, Tristan Rayum. Vous, j'imagine que vous y allez dans ces lieux en tant qu'élu. Est-ce que quand vous vous rendez sur ces lieux, en dehors de Popsu, vous avez aussi ce regard d'observation, ou est-ce que ces recherches Popsu vous font un peu changer votre regard sur toutes ces zones périurbaines, périmétropolitaines, pardon?
Alors quand on est élu local, déjà on commence à avoir un regard différent sur ce qui nous entoure, parce qu'on se dit que tiens, les décisions qu'on prend à travers des grands plans, des grandes choses avec des acronymes très longs, en fait ont un impact sur la ville. Mais si je devais un tout petit peu caricaturer notre manière de travailler, quand on travaille sur des projets d'urbanisme à la métropole, on est quand même souvent sur des plans, c'est-à-dire des vues de haut, du dessus. Et donc on va travailler sur des zones, des grands enjeux, une envie d'avoir des zonages pour de la végétalisation, protéger des zones humides, des choses comme ça. Parfois ne pas faire ça, et donc en ce cas-là on va s'engueuler. Mais en tout cas, on est vraiment sur une vue de haut. Et je trouve cela intéressant de revenir à une vue en fait d'habitante, parce que pour le coup c'est ce que les gens vivent. Le fait qu'il y ait un zonage, les gens ne le ressentent pas, enfin moi-même je le ressens pas dans la ville. Donc c'est intéressant de revenir à un niveau de cycliste, de piéton ou d'automobilistes pour vivre la ville autrement.
Il faut aller à 6h du matin près de Sainte-Pazanne.
Complètement, ouais.
Avec les chercheurs et chercheuses.
Pour rebondir sur la réponse de Tristan Rayum, sur la différence un peu entre espace conçu sur plan et espace vécu par les habitants, parce que c'est exactement ce qu'on a ressenti quand on a justement couché toutes nos remarques sur les cartes une fois revenus au bureau de nos arpentages vélo. On a classé en fait nos remarques en trois catégories. Il y a tout ce qui, nos relevés plutôt. Il y a tout ce qui relevait du socle, de l'environnement, du milieu finalement, les cours d'eau, les végétaux, les motifs végétaux, les points de vue. le type d'agriculture. Il y a tout ce qui relevait ensuite des espaces conçus et aménagés, donc les marqueurs de métabolisme urbain, les stations d'épuration, les carrières, la chaufferie bois, les marqueurs de mobilité, les pistes cyclables, les réseaux de transport, les routes, les espaces de rassemblement, une table de pique-nique, un banc. Et en fait, je les appelle des espaces conçus ou aménagés parce que quand on a traversé le transect, finalement, au moment où on l'a traversé, on n'a pas constaté d'usage. Et donc, du coup, pour l'instant, on les appelle des espaces conçus, aménagés, et souvent avec soin. Et notamment, les espaces de rassemblement sont très qualitatifs. Il y a de belles pistes cyclables aussi. Mais voilà, au moment où on est passé, ils étaient vides. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne servent pas. Ça veut dire plutôt qu'il y a une densité dans ce périmètre métropolitain qui est peut-être moindre, une intensité d'usage qui est moindre aussi. Et que pour capter l'usage, finalement, bah, il faut adapter nos méthodes, venir sur une plage de temps sans doute plus importante. Et c'est ce que font les chercheurs via les enquêtes. C'est aussi comme ça qu'interagissent nos travaux. J'ai parlé de deux strates. Et il y a une troisième strate qui sont les espaces vécus, les usages, les traces d'appropriation qu'on a pu relever sur le terrain, les marqueurs identitaires, mémoriels, donc par exemple les espaces tagués, le numéro de téléphone marqué sous l'abribus, etc. Il y a une des séquences qu'on a identifiée comme l'itinéraire off lors de notre arpentage, qui est une piste cyclable en fait, qui est aménagée derrière un mur anti-bruit le long de la route de Pornic. Et qui est pleine de tags en fait. Et quand on arrive dans cette piste cyclable, on se dit mais elle est au milieu de nulle part, où est-on? Et finalement elle est pleine de tags. Alors on imagine bien comment elle a pu être réappropriée, d'ailleurs peut-être pas par des cyclistes. Et il y a d'ailleurs un tag qui figure, qui dit vivons heureux, vivons cachés. Et donc ça révèle aussi tout un tas de choses sur ces espaces invisibilisés du périmétropolitain. Et donc du coup on a fait cette distinction entre ben, voilà, ceux qui relèvent du milieu, ceux qui relèvent des espaces conçus, aménagés, et ce qui relève des traces d'appropriation, des espaces vécus. Et ça, c'est un des résultats finalement de ce travail de terrain par le transect qui nous a permis d'identifier, comme on pourrait dire, des présomptions de lieux, c'est-à-dire que à quel moment ces espaces, ces marqueurs font lieu. Et ça aussi, c'est des questions qui nous intéressent. Je parle vraiment au sein du groupe POPSU, les chercheurs aussi s'intéressent à cette notion de lieu et comment est-ce qu'on passe du transect au lieu, quels marqueurs font lieu, etc. Et donc tout ça, on peut l'approfondir avec les enquêtes des chercheurs et c'est comme ça qu'on interagit.
Donc c'est sortir aussi de ces plans et de là on va mettre une super aire de jeu. Si les usages derrière ne suivent pas, finalement peut-être qu'ils vont être détournés. Vous parliez de la piste cyclable qui en fait est devenue un super terrain pour taguer des choses. Donc c'est là aussi où cette enquête POPSU, j'ai l'impression, prend son sens. C'est que se rendre sur place pour découvrir les usages, c'est derrière prendre des décisions publiques, enfin de politique publique, qui ont un sens avec ce qui est déjà en cours sur le territoire. Bon, donc on voit quand même qu'il y a cette interaction entre ces trois têtes du projet, politique, technique, de recherche. Je continue avec une dernière question avant d'enchaîner avec la musique, et on est déjà en retard, mais c'est pas grave, il y a des choses intéressantes qui ressortent. Souvent, pour décrire ces territoires, ces communes, ces villes, on utilise des données. On pense souvent à l'INSEE, aux populations, l'âge moyen, la densité, l'emploi, et on a des cartes qui sont quantitatives, avec des gros ronds, des petits ronds, qui permettent de comparer des villes, des métropoles, des régions. Ici, on est sur quelque chose de très qualitatif. On revient à ce dont on a déjà un peu parlé, le côté intuition. Est-ce que ça change tout de partir sur du qualitatif, sur de l'intuitif, de partir du terrain, ou est-ce que finalement c'est des résultats à peu près similaires? J'imagine que c'est une approche totalement différente quand même.
Bah, oui, globalement, on n'est pas là pour... par exemple, on va prendre un exemple sur la ligne de train Nantes-Pornic, on n'est pas là pour dire combien de personnes prennent le train et dans quelle mesure il faudrait que plus de personnes prennent le train, mais de qualifier ce que l'expérience du train veut dire pour des personnes qui sont habitantes d'un territoire élargi et dont la condition, c'est notamment le mouvement, de se déplacer pour aller au travail. Voilà. Et donc, cette part du quotidien de ces personnes... a aussi d'autres sens. Alors voilà, on a, pour les enquêtes qu'on a pu faire de ce point de vue-là, on a vu des figures comme les amis du train, des personnes qui se retrouvent et qui font de ce trajet un rendez-vous quotidien, voilà, d'autres choses de ce type-là. Et effectivement, c'est voilà, plus de parler d'expérience. Et ça va nous servir à qualifier ce que c'est que ce territoire.
Ça va être l'étape pour nous après, ça va être de faire le croisement justement entre ces cartes avec des gros ronds, et d'ailleurs l'agence d'urbanisme... c'est aussi son travail de faire ce genre de cartographie. Et ce qui a été observé dans le cadre de Popsu, si je prends un exemple, les lieux mouvements que vous avez définis, bah, en langage d'aménagement, ça peut être des pôles d'échange multimodal. Donc, est-ce que ce que nous, on a conçu comme des pôles d'échange multimodal, c'est-à-dire des espaces spécialement conçus pour passer du vélo au tramway ou du covoiturage à un bus, par exemple, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est exactement les mêmes? Est-ce qu'il y en a qui servent de lieux mouvement et qui, en fait, ne sont pas des pôles d'échange multimodal? Enfin, c'est intéressant de croiser les deux parce que derrière, on peut justement corriger des choses ou faire en sorte que des usages qui existent déjà, on les pérennise et on les rende plus confortables, quoi.
Oui, complètement. Et pour rebondir, parce qu'effectivement, à l'agence d'urbanisme, on a beaucoup de données, on traite beaucoup de données et on fait beaucoup de cartes avec des ronds dessus. Et on est dans un moment où on cherche aussi à renouveler vraiment nos pratiques et nos manières de penser le territoire, en lien avec toutes les crises qu'on traverse et qu'on va traverser, climatiques, géopolitiques et autres. On doit vraiment renouveler nos modes de faire. Et pour donner un exemple concernant le périurbain et en lien avec les lieux mouvements que tu as évoqués, Lucille, dans le périurbain, nous, le territoire, on parle souvent des déplacements domicile-travail, pardon. Et habituellement, on traite cette question par des données quantitatives. On a des données quantitatives, d'ailleurs, qui montrent que ces déplacements domicile-travail motorisés augmentent en Loire-Atlantique. Et une des dernières synthèses de l'agence d'urbanisme a traité de cette question-là. Quand bien même, on sait qu'il faut plutôt réduire les déplacements motorisés. On parle de la ville du quart d'heure, de proximité, etc. Et donc, finalement, pour dépasser ce constat des déplacements domicile-travail motorisés qui augmentent, on a besoin de se tourner vers la recherche ou de se tourner vers les enquêtes qualitatives et de poser la question aux gens, pourquoi finalement, quels sont de comprendre leurs aspirations, leurs freins pour se déplacer.
Les chiffres ne suffisent plus, il faut remettre de l'humain pour comprendre l'histoire derrière.
Tout à fait. Et donc c'est aussi pour derrière mieux en tenir compte dans nos politiques publiques, pour rejoindre ce que vous disiez.
Tristan Rium, vous voulez rebondir?
Oui, un autre élément, c'est que la recherche s'est un peu affranchie des limites administratives. Ce qui est du coup intéressant parce que moi je suis élu de Nantes Métropole, donc en fait j'ai un périmètre administratif qui est très défini, à un mètre près, soit on est dans la métropole, soit on n'est pas dans la métropole. Et donc, soit ça rentre dans les documents de programmation et dans ce sur quoi on peut décider dans la métropole, sinon c'est un autre espace. Or là, le fait d'avoir sillonné comme ça le territoire, vous êtes un peu affranchi finalement de ça, et c'est intéressant pour nous aussi. Vous avez parlé de la zone de Ragon, par exemple. Typiquement, la zone de Ragon, elle est très imbriquée dans la métropole, mais elle n'est pas dedans administrativement. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des espèces de ruptures qui se font. Dans l'absolu, on peut être au courant, nous, sans que ce soit très bien traité. Donc là, c'est une manière de rappeler aussi qu'il peut y avoir des ruptures que les gens peuvent vivre un peu tous les jours, c'est-à-dire une piste cyclable qui s'arrête à la limite d'une zone administrative, alors qu'il n'y a pas de raison a priori. Donc c'est intéressant aussi de faire ça pour cette raison-là, c'est que ça peut nous pousser à faire quand même un peu plus de liens entre des politiques publiques de territoires voisins.
D'ouvrir le périmètre de vue au-delà de cette limite administrative pour essayer d'avoir tout le contexte autour, finalement. On va parler de ce périmètre de cette métropole, mais surtout de ce qu'il y a autour de ce périmétropolitain. C'est l'enjeu, essayer de définir ce mot qui nous poursuit depuis le début de cette émission. Mais avant, on écoute Fanny Poli.
Elle s'appelle Fanny. Elle s'appelle Fanny.
Moi c'est Fanny, née en fin d'année 80, où il fait beau dans une région qui sent bon les pains. Entourée d'amis, de gens bien comme de locos, toujours deux frères pour intervenir en cas de pépin. J'suis en panique, j'ai du taf demain, mais bon rien de préparé, donc dors pas de la nuit. Même si j'suis plus efficace en un pro, j'aime pas qu'on résume mon boulot à 5, 6, 7, 8 là. Petite, Fanny t'a grandi, découvert la street, réveille sa sensibilité d'artiste, fasciné par le sport et ses tactiques. Meuf de terrain se sent bien que sur le practice. Mais Fanny était encore la fille de son père. Les vies de tous ceux qu'on a perdu sont chères. Je sais que t'aimes pas le tel, mais papa, si t'en avais un, ce serait plus pratique. Peste depuis la maternelle, je suis guéri, mais t'étonnes pas s'il y a des restes. Au lycée, j'étais plus costaud. Maintenant, je sais que mon instinct n'est pas le dernier à réagir quand il est testé. Portugal dans le sang, du Sénégal dans le cœur, d'Italie dans le nom, de la France dans les faves, du Maroc dans les taffes. C'était Fanny, aka citoyenne du monde.
elle s'appelle Polly. Elle s'appelle Polly.
Moi c'est Polly, fais pas ta blague, elle est débile. J'apparais vers le début des années 2000. Ce jour-là, Fanny se fait clasher, imbécile. De croire que les paillettes seraient discrètes sur Cécile. De tous les blazes, pourquoi j'ai choisi lui? Pour la même raison qu'au foot, le maillot de Fanny, c'est l'8. Ça te tombe dessus, puis ça coule de source. Comme quand l'écriture te permet de combler le vide. Je suis la facette, peace, love, unity, fun. Street, block, graffiti, sum. Triste, drôle, bref, hip hop est mieux quand elle est seule. Je suis la facette qui rend la gamberge plus productive, surtout quand elle est stone. Celle qui aime la scène, la moins timide et la plus volubile, celle que personne ne stoppe. Je suis la face créative, je peux buter un cerveau tant que le rendre actif. Je suis la part de magie que Fanny peut pas quitter, car sans poter que serait Daniel Radcliffe. Je suis la plus douée des deux, la plus vénéneuse, la plus habituée des haineux. Et si t'aimes, dis-toi que c'est que le name. Sur scène, venez me voir, il se peut que je vous aime.
La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs.
C'était donc Fanny vs Polly de l'artiste Fanny Polly. Nous sommes de retour en plateau avec Tristan Rayum, vice-président à la transition écologique de la métropole de Nantes, Lucie Reynoux de l'agence d'urbanisme de Nantes et Lucille Garnier, chercheuse au laboratoire Ambiance, Architecture et Urbanité. On attaque cette troisième partie déjà un peu en retard, mais c'est pas grave, il y a plein de choses à se dire, donc on continue. On l'a vu tout au long de cette émission, le projet POPSU, c'est un projet pluri et transdisciplinaire. C'est un projet de groupe. Alors, dans les coulisses, c'est donc beaucoup de réunions, beaucoup d'organisations. Est-ce que ça vaut la peine de mettre en place cette grosse machine POPSU? Qu'est-ce que ça peut bien apporter de travailler tous ensemble? Qui commence pour répondre à cette question?
Bah, c'est assez essentiel de croiser les perspectives. On est super content de pouvoir travailler avec les personnes de Nantes Métropole et aussi de croiser, enfin, et de l'agence Urba et de croiser différentes disciplines. Voilà, d'avoir des chercheurs qui sont plutôt sur de la géographie du monde du travail, des personnes qui sont enseignantes en géographie, des étudiants de l'école d'architecture. Et ouais, c'est assez riche de pouvoir investiguer un territoire, et notamment voilà, parce que la question spatiale, elle est aussi multidimensionnelle, elle imbrique énormément de sujets, donc c'est assez nécessaire.
C'est l'heure de la question un petit peu colle. On en a parlé tout le long de cette émission, de ce mot périmétropolitain. Alors, je l'ai appelé la France moche au début d'émission en référence à la une de Télérama. On sait maintenant ce que ce n'est pas. Ce n'est pas la métropole, ce n'est pas non plus le village et les zones rurales. C'est un peu cet entre-deux. Il va falloir essayer de le définir, chacun à votre tour. Mais avant, je propose à Laurent Devim de s'y coller. C'est à vous.
Alors déjà, j'ai envie de dire que c'est peut-être bien de se méfier des concepts ou des nouveaux concepts qui clignotent. Périmétropolitain en fait sûrement partie. D'une part parce que il y a une capacité parfois des chercheurs à inventer des notions et puis à dire qu'ils en ont la paternité. C'est vraiment pas l'objectif de notre recherche et même de la recherche urbaine en général. Et pour autant, on trouvait que c'était une notion plus précise que d'autres. Alors c'est peut-être l'occasion d'une part de dire que c'est un peu différent de parler du périmétropolitain et du périurbain. Ce terme-là, c'est celui qui était, alors peut-être pas passé dans le sens commun, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas celui qui désigne depuis 40 ans beaucoup de travaux de ceux qui s'intéressent soit à ce qui s'est passé, de gens qui sont partis des villes-centres pour aller là où c'est moins cher et s'installer plus près de la campagne, comme on dit souvent, soit de qualifier un mouvement de gens qui sont venus vers les villes mais qui n'ont pas pu venir jusqu'au centre et donc ils sont installés sur les bords, quoi. Alors, pourquoi c'est peut-être plus intéressant de parler de périmétropolitain? C'est que, d'une part, on peut se dire qu'il y a un peu un consensus sur le fait que toute la société est urbanisée aujourd'hui. Et donc, on pourrait dire qu'il y a des gradients d'urbanité. C'est-à-dire qu'on n'est pas urbain de la même manière si on habite dans la ville-centre ou si on est sur l'île de Nantes où on enregistre ce petit moment. Et c'est pas la même chose que d'habiter à Saint-Herblain ou encore à Saint-Aignan-Grandlieu. Mais pour autant, on peut dire que toute cette société est urbanisée. Nos références sont proches, nos représentations sont partagées. On pratique des espaces qui sont urbanisés. Et c'est mieux que de penser qu'il y a une coupure radicale entre les villes et leur monde. versus les campagnes et leur monde, ça a été pas mal démontré. Et pour revenir à Péray Métropolitain, on sait bien que aujourd'hui on a des métropoles qui organisent peu ou prou leur région urbaine. Ce sont aussi souvent de plus en plus des réalités politiques et institutionnelles. Nantes Métropole est un territoire politique, et qu'il y a un bord et un en dehors de ces métropoles. Et cet en dehors là, comment il est connecté avec la métropole? Est-ce qu'il se passe des choses qui sont pas spécifiquement métropolitaines, qui sont pas non plus du rural profond? On parle parfois de l'entre-ville. Et ici, à Nantes, on est quand même bien placé. On a Nantes, Angers, Saint-Nazaire, Rennes, Cholet, La Roche-sur-Yon. En fait, on est dans un urbain qui est multipolarisé, comme on dit dans la géographie urbaine. Et quand on vit entre Nantes et Saint-Nazaire, de quoi est-on le plus proche? Et donc ça, c'est intéressant de le décrypter, sachant que notre programme de recherche qui visait à comprendre ces énigmes du périmétropolitain, c'est plutôt de se dire que il se passe des choses qu'on a du mal à décrypter en général, qu'on ne voit pas, c'est dans notre champ aveugle, ou alors qu'on voit d'une manière beaucoup trop lapidaire. Et c'est là qu'on se dit que qualifier un périmétropolitain, c'est sûrement prendre au sérieux des ambivalences, une tonalité des lieux qui n'est pas forcément réductible ni à ce qui serait l'imaginaire d'une campagne, la place autour de l'église, ni la ville-centre bruyante, active, vibrante, créative, que sais-je. Ça n'est pas ça non plus. Donc ces archétypes ne marchent pas. Et l'hypothèse périmétropolitaine est peut-être un concept pour nous faire voir d'autres choses qu'on a du mal à voir.
Rendre visible ce qui est invisible, c'est une phrase qui avait été prononcée pendant cette émission. C'est donc la définition du périmétropolitain par Laurent de Vim, qui est, je le rappelle, coordinateur et responsable scientifique de POPSU Nantes. Chers invités en plateau, c'est à votre tour. Comment définir ce terme de périmétropolitain? Qui s'y colle en premier? Lucille. Ouais,
je veux bien enchaîner sur les propos de Laurent de Vim, avec lesquels je suis assez d'accord. Voilà, de ce périmétropolitain-là, pour l'instant, ça reste une énigme pour nous. Il y a des choses qui surviennent un petit peu du terrain, là, qui nous permettent peut-être d'avoir des éléments voilà, qu'on va essayer de solidifier avec l'enquête à poursuivre et puis les choses qu'on va écrire. C'est sûr qu'en fait, dès le départ, nous, on considère un peu la catégorie de rural comme quelque chose d'un peu problématique. On n'est pas, voilà, comme le disait Laurent, à trancher les choses entre ville et campagne, et c'est plus subtil, où il y a plus de nuances que ça. Et ces territoires-là, pour l'instant, je dirais que dans les enquêtes qu'on mène, moi j'ai l'impression de percevoir qu'il y a une complexité du jeu d'acteurs qui est renforcée. En tout cas, il y a des collectivités du département, de la région, qui vont gérer un certain nombre d'infrastructures ou de choses qui vont rendre l'action publique un petit peu, voilà, j'ai l'impression, plus dépendante ou plus complexe. C'est des territoires aussi qui sont animés par des ancrages forts, la part des habitants. Nous, on voit que les gens, pour l'instant, qu'on a pu interroger, ont tous des ancrages familiaux, historiques, dans les territoires dans lesquels ils résident. Donc, c'est pas des choix résidentiels forcément par contrainte. Les gens ont choisi d'y être, d'y revenir. C'est des gens qui ont aussi des forces attaches au paysage, à des aménités environnementales. Ça compte beaucoup. Voilà, il y a des pratiques de ces environnements naturels qui comptent énormément. C'est des territoires qui sont marqués, mais comme Lucie l'a dit tout à l'heure, par des intensités, des rythmes qui nous rendent un peu caduque la définition d'espace public qu'on a dans les centres urbains classiques. Lucie, tu as parlé tout à l'heure de présomption de lieu. On voit bien que c'est des territoires où il y a des rythmes et des intensités à des moments de la journée qui vont pas être les mêmes que dans des centres urbains plus
dynamiques, on peut dire.
Ouais, plus centraux. Et puis peut-être, voilà, des formes de vulnérabilité. Mais bon, c'est à vérifier. Hein, tout ça, c'est. On voit qu'en tout cas, il y a des acteurs privés assez puissants qu'il est difficile de réguler. Voilà, donc
un ancrage des habitants qui sont attachés à ce lieu, qui n'y vivent pas par défaut, des acteurs privés qui ont aussi un peu la main mise sur cet endroit, et puis des dynamiques un peu différentes de ce dont on a l'habitude intra-métropole. Est-ce que c'est un résumé à peu près?
Oui, c'est un peu, ça demande à être conforté et précisé.
C'est les hypothèses en cours, justement.
Ouais, c'est un peu des axes qu'on lance.
Top-up-su. Qui veut rebondir et s'essayer à la définition du périmétropolitain? Lucie,
je peux essayer. Déjà pour rebondir aussi sur les propos de Laurent Devime que je rejoins complètement, et ça m'a fait penser en l'écoutant aussi à ce que Michel Lussault décrit dans son dernier livre qui s'appelle Cohabitons, point d'interrogation, où il met vraiment en avant que l'urbanisation, et bon, dans la continuité en fin de compte de ce qu'avait décrit Henri Lefebvre dans La Révolution urbaine et la production de l'espace, finalement, elle est globale et elle va avec le mouvement de mondialisation. Et en fait, personne n'y échappe, à la ville comme à la campagne. On en fait tous partie. Donc finalement, ça rend un peu caduque aussi cette différence urbain, rural. Et donc pour rebondir sur et tenter une approche de la définition de la... du périmétropolitain, finalement, nous, au travers de nos arpentages vélos, je dirais que pour l'instant, mais c'est pareil, ça appelle à être confirmé par la suite de la recherche, mais ce serait des oscillations de séquences et d'ambiances plus ou moins urbaines, plus ou moins bocagères, parce qu'on est dans ce territoire entre Nantes et le Pays de Ré pour le transect qui nous a occupé entre Nantes et Sainte-Pazanne, plus ou moins calme, plus ou moins animé ou intense. On a beaucoup échangé sur la notion d'intensité, et du coup ce sont des oscillations et c'est pas linéaire. On pourrait retrouver une ambiance de bocage finalement en plein Nantes, si je tire le trait sur les bords de Sèvres, comme on pourrait retrouver une ambiance très nantaise dans le restaurant de la gare de Sainte-Pazanne qui s'appelle La Station, qui est d'ailleurs un restaurant très différent du restaurant qui est situé juste à côté, qui s'appelle le Café de la Gare, et qui est plutôt fréquenté par des travailleurs, alors que La Station est plutôt fréquentée par des navetteurs. Et finalement, ces différences sont très intéressantes à explorer et me font penser, moi en tout cas, à des oscillations plutôt qu'à un gradient linéaire. Et donc en guise d'ouverture, nous, pour travailler la suite, on aimerait vraiment creuser la question de l'intensité dans le périmétropolitain. Et s'il était possible d'identifier des lieux, on ne pourra pas le faire partout, mais même ponctuellement, et d'assumer que ce sera du ponctuel, mais de faire des électrocardiogrammes un peu de ces lieux du périmétropolitain, à quel moment est-ce qu'ils prennent vie. Ça implique qu'on invente de nouvelles méthodes et qu'on prenne le temps de le faire.
J'aime bien parce que vous avez employé le terme de électrocardiogramme. On a parlé tout à l'heure de diagnostic. J'ai l'impression qu'on est quand même sur un état de santé de ces zones qu'on a un peu laissées à l'abandon, dans l'oubli, ou alors qu'on trouvait pas forcément très chouette à explorer. J'espère que cet état de santé, en tout cas, vous plaît, chers auditeurs, auditrices. Je me tourne vers le dernier invité de ce plateau qui n'a pas encore répondu à cette colle. Alors, en tant qu'élu de la métropole, Tristan Rium, comment vous définiriez le périmétropole, ce qu'il y a autour?
Alors déjà, périmétropolitain, c'est pas un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Donc une des questions, ça va être, est-ce qu'il s'impose à nous? On a beaucoup débattu au sein de la métropole sur la métropolisation. Donc la métropolisation, c'est le fait que la métropole grandisse, ça revient à cette question d'attractivité, etc. Mais une des questions, c'est, est-ce qu'on parle de la métropole en tant qu'institution? Donc le fait que de plus en plus, on va gérer les déchets, l'énergie, la culture à l'échelle de la métropole, ou est-ce qu'on parle de l'objet urbain, c'est-à-dire finalement ce que vous avez fait en analysant là la métropole. Donc c'est pour ça aussi que nous on commence à s'intéresser aux territoires alentours, etc., parce qu'on sent que ce qui est en question, c'est pas tant Nantes métropole en tant que telle que l'objet urbain. Et donc je pense qu'on est à un moment un peu de changement où il faut en effet qu'on s'intéresse à ce périmétropolitain, sachant qu'en même temps, je pense que beaucoup de gens ne le vivent pas forcément comme étant en périphérique de la métropole, dans le sens où il y a des espaces de vie, je sais pas, un habitant de Couëron, peut-être qui bosse à Saint-Étienne-de-Montluc ou à Saint-Herblain, et que du coup, la centralité nantaise, ils s'en fichent un petit peu, sauf pour aller de temps en temps, je sais pas, faire une activité particulière. Donc je pense que c'est intéressant aussi de se décentrer, pour la petite histoire. Vous pourrez retrouver dans les archives d'il y a longtemps, mais il y a 60-70 ans, l'idée du territoire, c'était qu'on allait faire une grande zone urbaine continue de Saint-Nazaire à Nantes. Et c'est qu'on a créé du coup le pôle métropolitain, qui était l'idée de dire demain, on a une grande métropole continue. Enfin, pour moi, ce serait un enfer de faire un truc pareil. Mais c'était voilà l'idée de 70 ans. Bon, bah du coup, maintenant, je pense qu'on est à complètement une autre étape. On n'a évidemment pas fait ce projet. Mais du coup, on doit aussi réfléchir à l'étape d'après. C'est, est-ce qu'on imagine des villes de quart d'heure à l'échelle de tout le territoire, un territoire avec plusieurs centralités où Nantes n'est pas le centre du monde, ni Saint-Nazaire, et qu'en fait on essaie de penser, y compris en termes d'accès à la culture, où ça explique un rapport complètement différent. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on s'approprie un peu cette question qui a été soulevée par les chercheurs et les chercheuses.
En général, que la société soit à l'écoute de la science, c'est un avis personnel, mais je pense qu'il est partagé sur ce plateau, ça permet de prendre de meilleures décisions.
Merci à nos invités Lucille Garnier, Tristan Rayum, Lucie Renou et Laurent Devim d'avoir répondu à mes questions. Merci également à Rémi David et à toute l'équipe de PopSU pour l'aide à la préparation de cette émission. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à taper PopSU, P-O-P-S-U, dans la barre de recherche. Vous allez découvrir plein d'articles super intéressants, vous ne serez pas déçus. Une émission réalisée par Sophie Potvin que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodessavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Radio G, soutenez-la. En faisant un don à notre association reconnue d'intérêt général, vous contribuerez à son développement et à la réalisation de ses nombreux projets culturels, radiophoniques et d'éducation aux médias. Radio G compte sur vous. Rendez-vous sur radio-g.fr dans la rubrique Faire un don. Votre participation sera déductible de vos impôts. Alors, n'hésitez plus.
Radio G, 101.5 FM, en DAB+, sur Angers.